C'est l'heure du journal, présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour. Bonjour Élise et bonjour à toutes et à tous. Malgré l'accélération des contacts diplomatiques, les efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont essuyé une sérieuse désillusion la nuit dernière après une attaque aérienne massive de la Russie. Nous serons à Kiev dès le début du journal et puis on se rendra à Moscou après qu'on a appris que le chercheur français Laurent Vinatier, actuellement emprisonné en Russie, fait désormais l'objet d'une enquête pour espionnage. L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza. Ses troupes ont lancé de premières opérations ce matin et poursuivi leur bombardement. Et puis l'actualité en France, c'est notamment le début des universités d'été de la gauche. Quand les insoumis se retrouvent près de Valence, les écologistes se rassemblent à Strasbourg. Les efforts des chancelleries visant à parvenir à la paix ont visiblement encore bien du mal à couvrir le bruit des bombes en Ukraine la nuit dernière. 614 drones et missiles ont été lancés par l'armée du Kremlin sur plusieurs villes de l'ouest du pays. Un record depuis un mois. La veille, Moscou avait averti que toute discussion sur les garanties de sécurité que les Occidentaux envisagent de donner à Kiev ne mènerait nulle part si elle ne prenait pas aussi en compte sa propre position. L'attaque cette nuit a fait au moins un mort et une quinzaine de blessés. Bastien Bory, bonjour.
Bonjour à vous.
En plus de cette salve nocturne donc de missiles, les autorités ukrainiennes s'inquiéteraient qui plus est de ce que l'envahisseur est en train de masser en ce moment même des troupes dans la partie occupée de la région de Zaporizhia dans le sud du pays.
Oui, il ne semble pas s'agir d'une analyse à vue de nez. Le président Zelensky et ses services de renseignement affirment avoir remarqué de grands mouvements de troupes côté russe, trahissant des manœuvres d'attaque. L'information vient des radars de surveillance ukrainiens postés effectivement dans cet oblast de Zaporizhia, déjà occupé à 70% par Moscou, et qui fait l'objet de spéculations quant à un éventuel échange de territoire entre Ukrainiens et Russes. Le Kremlin veut faire pression presque psychologiquement sur l'Ukraine. En tout cas, ça a été le message de cette nuit. Une énième attaque qui a commencé tôt, vers 3h du matin, quand des chasseurs russes MiG-31 ont décollé pour leurrer leur adversaire, parce que c'est la triste nouveauté dans l'arsenal de Moscou, des nuées de fausses alertes afin de saturer une défense anti-aérienne ukrainienne d'ordinaire efficace pour contrer les raids russes.
Et vous avez recueilli, je crois, Bastien, plusieurs témoignages d'habitants visés donc par les frappes de la nuit dernière.
Oui, cette attaque a été soudaine, massive, complexe, ce qui laisse cette retraitée Ludmila encore secouée aujourd'hui.
Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Les abris et le métro sont trop loin de chez moi. C'était terrifiant. Et je pense qu'ils le font exprès. Il y a eu une première série de frappes, puis une deuxième. J'ai pris le risque de prendre une vidéo sur mon balcon. Ce bruit, c'est le bruit de la mort.
Et pour Valentina et Olha, deux étudiantes, tout cela laisse peu de doute sur les intentions russes.
Je pense que c'est du théâtre. Selon moi, c'est clair, depuis le début, il n'y aura pas de trêve. Nos ennemis ne s'y intéressent pas du tout.
La Russie essaiera de nous faire peur jusqu'à ce que l'Ukraine se rende, jusqu'à ce qu'elle capitule, ou peut-être jusqu'à ce que Zelensky fasse des concessions.
Un témoignage donc d'habitants que vous avez recueilli ce matin à Kiev. Merci Bastien Bory. Alors on l'aura compris, la Russie reste déterminée pour l'heure à maintenir coûte que coûte la pression sur l'Ukraine, mais aussi ses alliés européens. Et c'est le cas notamment avec la publication hier d'un document selon lequel le chercheur français Laurent Vinatier, qui purge actuellement une peine de 3 ans dans une prison russe, ferait désormais l'objet d'une enquête pour espionnage, un chef d'accusation passible de 20 ans d'enfermement. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, rappelons peut-être pour commencer que Laurent Vinatier, 49 ans, est un chercheur chevronné. Il est accusé par le Kremlin d'avoir enfreint la nouvelle loi sur les agents étrangers au prétexte qu'il ne s'était pas enregistré en tant que tel lors de sa venue en Russie. Paris dénonce depuis une détention arbitraire et appelle à sa libération. Or, Laurent Vinatier a bien été convoqué, Sylvain, à une nouvelle audience au tribunal. Ce sera lundi prochain.
Oui, c'est un grand classique de la justice russe, les affaires à tiroir avec des accusations qui succèdent à d'autres accusations toujours plus graves. Laurent Vinatier pensait avoir échappé au pire en étant condamné à seulement, entre guillemets, 3 ans de prison pour manquement à des obligations d'inscription au registre des agents de l'étranger, une obligation que personne ne connaissait jusque-là, soit dit en passant, en plaidant coupable, en demandant l'indulgence, en expliquant qu'il n'était pas un ennemi de la Russie. Ce Français avait réussi à limiter sa peine, même s'il espérait mieux. Mais là, comme souvent avec les opposants ou les étrangers, la justice russe durcit le ton. L'accusation d'espionnage, dont on ne sait pas sur quoi elle repose, est très grave en Russie. Le journaliste américain Evan Gershkovitch avait pris 16 ans de prison pour une accusation similaire. Le tout dans un contexte diplomatique qu'on ne peut évidemment pas ignorer. La Russie a déjà utilisé des prisonniers étrangers comme monnaie d'échange. Depuis avril dernier, Laurent Vinatier a été transféré à la prison de Lefortovo, dans la banlieue de Moscou. C'est très symbolique. C'était la prison du KGB à l'époque soviétique, celle où on enfermait et où on enferme toujours les prisonniers politiques. D'après nos informations, après de nombreuses requêtes refusées, un diplomate français a enfin pu lui rendre visite cet été.
Merci Sylvain Tronchet. Au risque de se retrouver à court d'arguments face à ses détracteurs qui lui reprochent de vouloir instaurer délibérément un régime d'apartheid, le gouvernement israélien a donné hier son approbation finale à un plan de construction de 3400 nouvelles colonies en Cisjordanie destinées à couper en deux le territoire occupé et même plus encore pour que le monde n'ait plus rien à reconnaître de l'État de Palestine, s'est réjoui un ministre du gouvernement Netanyahou. Une décision fermement condamnée notamment par le secrétaire général de l'ONU, soit-il que les quelques 5000 Palestiniens, essentiellement des Bédouins qui habitent ce petit territoire, ont reçu l'ordre d'évacuer avant l'arrivée des bulldozers chargés de détruire leur habitation. L'opération pourrait débuter dès aujourd'hui. Et puis c'est encore au milieu de ce chaos épouvantable que les Gazaouis, sous la menace d'une occupation permanente, sinon d'une annihilation totale, vivent à présent dans l'angoisse d'un assaut imminent depuis que l'armée israélienne s'est postée en ordre de marche aux portes de la principale ville de l'enclave palestinienne. Les précisions depuis Jérusalem du correspondant de RFI pour France Culture, Michel Paul.
L'étau se resserre dans ce secteur, selon l'armée israélienne qui indique avoir entamé les premières étapes de son invasion de la ville de Gaza. Le porte-parole militaire israélien affirme que les forces armées contrôlent déjà la périphérie de la ville. Deux brigades d'infanterie et une de blindés ont été positionnées dans ce secteur et elles mènent des incursions dans les quartiers de Zeitoun et de Jabalia. Autre détail donné par le général Effi Defrin, il s'agit d'une opération de longue haleine puisque sa planification prévoit qu'elle doit durer jusqu'en 2026, sans plus de précision. Et toujours selon l'armée israélienne, cette phase consiste à obtenir l'évacuation de la population civile de la ville de Gaza. Il faut rappeler qu'elle approche 1 million d'habitants qui, une fois de plus, vont devoir migrer, cette fois vers le sud de l'enclave palestinienne. Un plan qui a été qualifié d'excellent par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
Eux pleurent sur un paysage ravagé et l'abandon dont ils se sentent victimes. Ce sont les Espagnols et les Portugais. Plus de 650 000 hectares de végétation ont brûlé depuis le début de l'année, dont l'immense majorité, rien qu'au mois d'août, du jamais vu depuis 20 ans dans la péninsule ibérique. Pour l'Espagne, la superficie dévorée par les flammes dépasse même déjà le pire bilan sur une année entière. Les émissions de CO2 du pays atteignent là aussi des niveaux jamais vus et le cauchemar n'est pas encore terminé puisque le vent vient désormais compliquer les efforts des pompiers pour contenir les incendies. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, son administration multiplie les mesures destinées à expulser toujours plus de migrants présents sur son sol vers des pays tiers. Ce matin, le gouvernement ougandais a annoncé avoir conclu un accord avec Washington pour accueillir des personnes qui pourraient ne pas obtenir l'asile aux États-Unis. Elles sont traditionnellement l'un des premiers indicateurs de ce que la fin des vacances approche. Les universités d'été, la gauche entame cette semaine sa rentrée politique, plus exactement aujourd'hui, s'agissant des insoumis et des écologistes. Les premiers seront près de Valence et les seconds à Strasbourg. Les communistes se réuniront eux demain à Montpellier. Quant aux socialistes, ils attendront la semaine prochaine pour se réunir à Blois. Alors pour beaucoup, le mot d'ordre n'a pas changé depuis la nomination de François Bayrou, la censure du gouvernement. Par ailleurs, tous ou presque voient plutôt d'un bon œil les appels de collectifs citoyens à la mobilisation le 10 septembre contre les coupes budgétaires. Et puis bien entendu, ces universités seront l'occasion d'aborder les deux prochaines échéances électorales. À ce titre d'ailleurs, certains se prennent encore à rêver de voir refleurir une union de la gauche la plus large possible. Et c'est ainsi que les Verts ont convié ce soir tous leurs camarades du Nouveau Front Populaire à une grande assemblée plénière intitulée « Gagner demain » avec des représentants du PS, du PC et même de LFI. Mais en attendant 2027, le premier objectif, ce sont, vous le savez, les municipales. Dans quelques mois, il y a 5 ans, on se souvient que les écolos avaient créé la surprise en raflant de grandes villes comme Lyon, Marseille ou bien encore Bordeaux. Et forcément, Mathilde Bouquerel, il compte bien réitérer l'exploit.
Ce n'est pas un hasard si Strasbourg a été choisi pour accueillir ses journées d'été. C'est l'une des principales conquêtes des écologistes en 2020. Et depuis, affirme la maire strasbourgeoise Jeanne Barseguian, les élus verts ont fait leur preuve.
Je crois qu'on a pu montrer qu'on était capable de gérer des grandes villes françaises, de faire fonctionner nos services publics, d'assurer le quotidien de nos concitoyens, tout en préparant l'avenir et en adaptant nos villes au changement climatique. J'entends tous les jours parler de backlash écologiste. Ce n'est pas ce que je constate dans ma ville, ce n'est pas ce que me disent les habitantes et les habitants.
En 2020, les écologistes avaient surtout fait bon score dans des communes plutôt grandes et très urbaines. L'objectif de 2026 est donc d'élargir cette base en parlant du quotidien. Jeanne Barseguian.
Je vois des habitants qui sont très préoccupés par les questions environnementales parce qu'ils les subissent au quotidien. Quand ils subissent les canicules dans leur bouilloire thermique que sont leur logement, quand ils vivent à côté d'une autoroute, quand ils n'ont pas accès à une alimentation de qualité.
Et pour Olivier Bertrand, délégué aux élections chez les écologistes, la victoire passera aussi par le rassemblement de la gauche et de possibles fusions de listes.
Des fusions, il y en a toujours eu, on a toujours travaillé dans des cadres collectifs dès 2014 à Grenoble, 2020 dans beaucoup d'autres villes, mais nous sommes aussi présents à Nantes, à Rennes, à Marseille, etc., qui ne sont pas aujourd'hui dirigés par des maires écologistes.
Une union de la gauche qui pourrait d'ailleurs servir de test avant la présidentielle un an plus tard.
J'évoquais tout à l'heure l'appel à bloquer le pays le 10 septembre. Avant cela, comme un avant-goût de cette rentrée sociale qui s'annonce décidément tendue, les fédérations de taxis ont, elles, convenu hier soir d'élargir leur mobilisation. Ce sera le 5 septembre. Elles prévoient de bloquer les aéroports, les gares, les terminaux pétroliers et les sites de distribution de carburant. Et cela afin de protester contre plusieurs réformes visant à faire faire des économies à l'État. C'est face à des vents contraires que le ministre des Outre-mer mène actuellement une opération délicate de sauvetage sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls a lancé aujourd'hui le comité de rédaction chargé de traduire en loi constitutionnelle l'accord de Bougival sur l'avenir de l'archipel, et ce, en dépit donc de l'opposition des indépendantistes qui rejettent l'accord signé le mois dernier par les acteurs locaux. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est lui attendu en Martinique et en Guadeloupe aujourd'hui. Un déplacement placé sous le signe de la sécurité, de la lutte contre le narcotrafic, un enjeu majeur dans la zone Caraïbe. Selon un récent rapport, les juridictions de Fort-de-France et Basse-Terre, mais aussi Cayenne en Guyane, recensaient déjà 61 homicides au 26 juin dernier, soit une moyenne de 7 homicides pour 100 000 habitants par an contre 1 en France hexagonale. Il faut dire que ces territoires, Anne Fauquemberg, servent aujourd'hui de zone rebond aux trafiquants sud-américains pour acheminer la drogue sur le vieux continent.
L'Office anti-stupéfiant, l'OFAST, a publié une note confidentielle dans le courant de l'été qui a fuité dans plusieurs médias. On y apprend que dans les Caraïbes, le trafic inter-île avec l'utilisation de GoFast est constant. Le produit arrive depuis l'Amérique du Sud par vecteur maritime via des navires dits « mer » incluant des bateaux de pêche et de plaisance. Une fois arrivé à Sainte-Lucie et à la Dominique, la cocaïne est ensuite envoyée en Martinique et en Guadeloupe par des yoles, des embarcations locales ou des hors-bords. Les Antilles françaises serait même passé de zone rebond à zone d'organisation du trafic et de stockage de la drogue à destination de l'Europe, analysent les services. On se souvient qu'en mars dernier, 10 tonnes de cocaïne avaient été découvertes dans un conteneur au port de Dunkerque en provenance de Guadeloupe, conteneur supposé contenir du sucre. La saisie était record et sans commune mesure avec l'année 2024 où seulement 157 kilos de cocaïne avaient été découverts dans ce port. En juillet dernier, ce sont également 5 tonnes de cocaïne qui auraient été appréhendées au large de la Martinique. Et c'est sans compter le trafic perlé, le trafic qui passe par voie aérienne via des mules, ces petites mains du trafic qui acceptent d'emmener de la drogue dans leur bagage ou en cachant le produit dans leur corps, trafic dit incorporé. Le phénomène était au départ essentiellement guyanais, mais face au 100% contrôle à l'aéroport de Cayenne, il s'est déplacé vers la Martinique et la Guadeloupe. En 2024, 1640 mules ont été interpellées en France, mais les trafiquants saturent tellement les aéroports que nombre d'entre elles parviennent à passer. Des moyens supplémentaires devraient être annoncés par le ministre Retailleau. On parle notamment de l'installation de 2 scanners à ondes millimétriques à l'aéroport de Fort-de-France.
Si la France respire de nouveau après 11 jours de fournaise, la canicule qui vient de s'achever est l'une des plus intenses qu'a connu le sud du pays, selon un bilan de Météo France. Et c'est aussi la seconde la plus longue pour un mois d'août. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec toujours des pluies orageuses sur les régions centrales et le flanc est. Le Haut-Rhin reste en vigilance orange, pluie, inondation. En revanche, le soleil reviendra par la Manche ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 26 degrés. Malgré, c'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.